Chapitre 13. Les roueries de l'expérience. Le soir du jour où cette conversation eut lieu, on retourna au café du Coq Gaulois. Le lendemain, Chaise-Martin et le critique y revinrent. Puis ce fut une habitude et personne n'y fit plus attention. Personne, excepté Jacques cependant. Ainsi sa prévoyance, ses plaintes, ses menaces avaient été inutiles. Le destin était plus fort que lui. La liaison avec Chaise-Martin était accomplie. Et il lui fallait engager une lutte dans laquelle il se sentait vaincu d'avance. Que faire en effet? Quel parti prendre? Chercher querelle à Chaise-Martin? Mais celui-ci n'en offrait jamais l'occasion. Malgré son audace naturelle, malgré son insolence affectée, il savait très habilement s'arrêter à la limite où la plaisanterie devient insulte. Et si parfois il allait trop loin, il le sentait aussitôt, revenait sur ses pas, invoquait en riant les droits de la camaraderie, s'excusait effrontément, se moquait de lui-même, et rendait toute discussion insoutenable, toute rupture impossible. Le maître franchement à la porte, mais s'était blessé Foulogne, qui ne comprendrait pas qu'on doutât de sa sœur. Prier Caroline de le congédier elle-même, assurément c'était là le moyen le plus direct, mais c'était aussi le plus dangereux. Les premiers mots qu'ils avaient échangés au sujet de Chaise-Martin était si promptement devenu amer, incisif, cruel. L'entretien avait si rapidement tourné à la querelle que Jacques n'osait le recommencer sans avoir au moins des motifs précis, des griefs évidents qui mettraient le bon droit de son côté et non plus de simples inductions, de vagues craintes qui permettraient des détours et des faux fuyants à une conscience déjà coupable. De justes reproches à une conscience maladroitement outragée. Au reste, devant la nécessité d'une explication immédiate, il reculait hésitant. Il commençait à connaître Caroline et savait qu'au premier signe trahissant un soupçon, elle s'emporterait et voudrait rompre. Il se connaissait lui-même et savait aussi qu'il ne garderait ni son sang-froid, ni sa raison, qu'il perdrait peut-être toute mesure, et qu'alors des paroles seraient lancées qui feraient un mal irréparable et créeraient une situation plus difficile et plus fausse encore que celle qu'il traversait en ce moment. Et puis le temps n'était plus où, habile et fier, il allait bravement et sûrement au-devant du danger. Maintenant, rendu lâche par la grandeur même de son amour, il avait toutes les timidités d'un amant de 20 ans, et à cette seule pensée, « Si j'allais la fâcher, si j'allais la perdre !» Il se sentait sans force, sans volonté, sans espoir. Ah, s'il eût pu seulement dire « Entre Chaise-Martin et moi, choisis !» Cela lui eût donné courage. Mais Chaise-Martin s'était-il déjà prononcé? Et lui-même, Jacques, sans le consentement express de sa mère, pouvait-il se prononcer formellement? Des espérances, des promesses, des serments. C'était là seulement ce qu'il pouvait opposer à son rival. Il fallait donc lutter, et lutter furtivement contre un homme riche, expérimenté, maître de son esprit et de son cœur, quand on était soi-même pauvre, sans expérience, sans confiance, aveuglé par l'amour et la jalousie. Il fallait attendre sans même savoir jusqu'où, et pendant ce temps, Caroline, atteinte déjà peut-être en son honnêteté juvénile, était libre de froidement raisonner et d'envisager l'avenir en ne le regardant qu'à travers les tristesses du présent. Elle pouvait, sous cette trompeuse influence, comparer les deux rivaux, les juger eux et leur fortune, et, en se laissant refroidir par les laideurs de la misère et les trop justes craintes de l'incertain, se laisser corrompre par les séductions de la richesse et les trop attrayantes illusions de la sécurité. Cependant, comme si ce n'eût point été assez de ces réunions qui, en resserrant l'intimité d'Arthur et d'Émile, effrayaient Jacques si justement, il se présenta bientôt un incident qui la rendit encore plus vive et plus complète et qui chaque jour amena Chaise Martin rue de Buffault. Dans un moment de caprice et d'humeur, Caroline quitta son magasin et resta chez elle à travailler. Tout le monde voulut lui tenir compagnie, et chaque soir vit réunis Émile, Caroline, Jacques, le critique quelquefois, Chaise Martin toujours. Pour Jacques, chacune de ces soirées fut un cruel supplice. Pour lui, elle s'écoulait avec une mortelle pesanteur, tantôt coupée par des silences significatifs, tantôt traversée et envenimée par les plaisanteries de Chaise Martin ou par quelque épigramme du critique qui tous deux, par instinct, l'avaient choisi comme une cible où décocher leur malice. Caroline, généreusement, essaya d'abord de le défendre, de se mettre entre lui et ses persécuteurs. Mais Chaise Martin était si drôle, le critique touchait si juste dans ses observations qu'il fallait rire et passer de leur côté. Alors commença dans le cœur de la jeune fille un désenchantement plus cruel que celui de l'amour et qui, d'ailleurs, lorsqu'il aurait atteint cette dernière limite, devait emporter l'amour avec lui. Jusque-là, d'une bonne foi robuste, d'une confiance entière, elle avait cru au génie de Jacques. Elle n'avait mis, au point de vue de l'intelligence, aucun homme, aucun nom, si célèbre qu'il fût, en comparaison avec son amant. Elle pensait, elle disait sans forfanterie et sans hésitation, que le jour où il serait donné à Jacques de se produire, il étonnerait le monde, qu'il y avait en lui des trésors d'esprit et de science depuis longtemps accumulés, et que lorsque tout cela déborderait, les plus matois ouvriraient les yeux et les plus fiers baisseraient pavillon. L'inaction de Jacques, qu'elle attribuait à la fatalité des circonstances, ne l'avait nullement ébranlé. Mais lorsqu'elle le vit chaque soir en butte aux railleries d'un homme qui était célèbre, et dont lui-même il lui avait appris à connaître le nom et à respecter l'autorité, le doute commença à se glisser dans son esprit, et elle se demanda si elle ne s'était point trompée, si elle n'avait pas pris un écolier pour un maître, le bavardage pour l'éloquence, la facilité pour le talent, un enfant pour un homme. Elle chercha au milieu de ses incertitudes à s'appuyer sur son frère, dans lequel elle avait toujours trouvé le plus fanatique admirateur de Jacques. Mais Émile, lui aussi, avait subi la même mauvaise influence, et quoique moins troublé parce qu'il réfléchissait moins, il se sentait assez disposé à faire des restrictions et des réserves auxquelles il n'eût point songé 15 jours auparavant. Ne recevant aucune aide, aucune lumière de ce côté, elle retomba lourdement sur elle-même, se demandant avec anxiété comment elle déroberait le mot de l'énigme. Elle était d'autant plus embarrassée qu'en cette matière, elle n'osait s'en rapporter à son sentiment personnel très net et très franc qui l'eût guidée à coup sûr. À n'écouter que son instinct, il lui semblait que Jacques était supérieur à Arthur et quelquefois au critique lui-même. Elle lui trouvait tout ce qui manquait chez eux, et tout ce qu'elle aimait, la générosité, l'élévation, la poésie. Mais elle était si bien habituée à entendre le critique parler des vraies règles de l'art, des lois de la raison, des secrets de la science, qu'elle se croyait naïvement incapable de rien décider à cause de son ignorance, et qu'elle s'accoutumait à regarder la littérature comme une chose exceptionnelle, compliquée, extraordinaire, comme l'algèbre, le sanskrit ou la philosophie. Or, il n'y avait pas à dire, un docteur en cette science avait tâté le pouls à l'esprit de Jacques, et il l'avait condamné. Ainsi, Jacques n'était ni un génie, ni un aigle. Il était tout simplement un des plus humbles et des plus mesquins parmi les 2 ou 3 000 petits jeunes gens qui, sur le pavé de Paris, traînent la savate littéraire. Elle souffrit beaucoup dans sa vanité, mais cependant, elle ne cessa point pour cela d'aimer Jacques. Certes, elle eût préféré être fière de lui, mais en pensant qu'il n'était qu'un déshérité, elle se sentit prise à son égard d'une tendresse maternelle, et elle se dit
« Ne laissons point paraître la lumière qui s'est faite en moi, et entretenons-le dans son illusion, dans sa vanité littéraire. »
Mais la réflexion, en lui présentant les choses sous un autre aspect, venait corrompre cette joie. En réalité, c'était non seulement le grand avenir qui se fermait devant eux, la belle carrière du succès, de la gloire et de la fortune, mais c'était le petit avenir, le pain du ménage, la sécurité, l'honnêteté. Si Jacques n'était qu'un mauvais littérateur, incapable cependant de faire autre chose que de la littérature, comme cela se voit trop souvent, que deviendrait-elle? Que deviendraient-ils tous deux? Un soir que son frère et Jacques étaient à dîner dans le Quartier Latin et que le critique était retenu chez lui par un accès de goutte, chez Martin, en arrivant à l'heure ordinaire, la trouva seule, plongée plus que jamais dans ses tristes réflexions. Après les premières réflexions et les informations prises sur l'heure probable à laquelle rentreraient les deux amis Émile et Jacques, Chaise Martin regarda Caroline assez longtemps et d'une voix presque rude.
« Vous êtes bien pâle aujourd'hui. Vous aurez encore travaillé trop tard la nuit dernière. »«
Malheureusement, non, » répondit-elle. « Je n'ai pas assez de travail pour cela, et s'il ne m'en vient pas ces jours-ci, je ne sais trop comment nous ferons. »
Il se leva et se promena dans la chambre comme un homme de mauvaise humeur.
« Il est inconcevable, »
s'écria-t-il en frappant du pied,
« qu'avec 2 hommes jeunes et forts auprès de vous, vous en soyez réduite à des extrémités pareilles. »
Il fit le tour de la chambre, s'arrêta devant Caroline pendant quelques minutes, la regarda travailler sans rien dire, puis reprenant l'entretien du ton de quelqu'un qui veut échapper à son embarras à force de brusquerie,
« Si la position d'un homme de mon âge envers une jeune fille, une jeune femme, je ne sais comment vous appeler, n'était pas parfaitement ridicule, je pourrais, lorsque j'accroche quelques sous à un usurier ou à mon père, ce qui m'est tout un, les partager amicalement avec vous et Émile. Mais que diable, je n'ai le droit de rien offrir à la fiancée de Monsieur Jacques, moi. Il aurait, lui, parfaitement le droit de vous faire une scène, et à moi de me faire la mine. » Mais laissons ce sujet désagréable. »
Caroline répondit qu'elle le remerciait, mais qu'il se méprenait assurément sur le caractère de Jacques. Il n'était pas assez mal élevé pour refuser un service si obligeamment offert. Quand elle eut fini, il s'assit tout d'un coup et la regarda fixement.
« Ce que c'est que les situations fausses, si Jacques acceptait un service de moi à vous, je le mépriserais. » Et vous ne l'estimeriez guère. Personne autre que lui ou votre frère n'a le droit en ce moment de venir à votre aide. Comme ils n'ont l'air de se presser ni l'un ni l'autre, vous pourriez bien mourir de faim à côté d'amis dévoués qui ne demanderaient qu'à vous être utiles. Mais il y a là les convenances. »
Et il se mit à rire.
Belle convenance, avouez-le. Car enfin, supposez qu'au lieu d'être amoureux comme je le suis d'une autre femme, je sois amoureux de vous. Que je vous fasse une déclaration, que je me jette à vos genoux. Voyons, auriez-vous le droit de vous fâcher? Êtes-vous une femme à marier? Êtes-vous Madame Jacques? Ah! Alors, je me trouve en présence de quelque chose de réel. Il y a le code, la société, le devoir. Êtes-vous sa maîtresse? Très bien. Il y a là la passion qui vous garde mieux que tous les magistrats et tous les gendarmes du monde. Dans les 2 cas, vous n'avez qu'à me mettre à la porte. Et moi, je n'ai qu'à prendre mon chapeau et à descendre vos 7 étages. Mais vous n'êtes ni amante, ni épouse. Vous êtes quelque chose de fabuleux, de fantastique, d'insensé. vous êtes une fiancée. Comprenez-vous ce qu'il y a d'équivoque et en même temps de séduisant pour certains hommes dans votre position? Tenez, je suis peut-être un personnage fort matériel, mais je ne comprends pas que ce Jacques, qui vit depuis si longtemps auprès de vous, ne vous ait pas épousé, ou que, dans un moment de transport et d'égarement, il n'ait pas fait de vous sa maîtresse. »
Toute rouge de honte et de colère, elle se leva avec un geste de dégoût.
« Oh, le mot n'est pas beau. Je le sais, j'en conviens. Mais que voulez-vous? Je ne suis pas un poète, moi. Je ne sais pas mettre de belles étiquettes aux vilaines choses. Et si je vivais maritalement avec une femme, quand ce serait Jeanne d'Arc en personne, je ne l'appellerais pas une fiancée. »
Caroline garda le silence et ne leva point les yeux. Visiblement, elle était blessée. Il comprit qu'il était allé trop loin.
Eh, mon Dieu, ce n'est pas vous que j'accuse. Je sais que vous êtes pure et blanche comme le lys. Ce n'est ni Jacques ni votre frère. Ils n'ont péché que par excès de naïveté. Quand vous aurez un peu vécu, vous saurez qu'il n'y a que les honnêtes gens pour se fourrer héroïquement dans des bourbiers et y rester le plus vertueusement du monde. Ils ont des motifs, des explications, des raisons à eux qui feraient rire un diable et qui font damner un homme de sens. Jacques vous respecte. Il sait que s'il vous avait proposé d'être sa maîtresse, il aurait pu y avoir rupture entre vous. Alors, comme il vous aime et qu'il ne vous épouse pas, c'est parce qu'il est sans un sou. Ne pouvant pas vous avoir et ne voulant pas vous perdre, il a inventé ce que j'appelle le truc fiancé. C'est une hypothèque qu'il a mise sur vous. Ce garçon qui n'est pas bête se dit en lui-même. De deux choses l'une. Ou il m'arrivera de l'argent et je l'épouserai, ou par la force des choses et compromise aux yeux du monde par une vie en commun, ennuyée d'avoir tous les déboires qu'aurait une vraie maîtresse, à quelques dimanches soirs, elle jettera son bonnet par-dessus les moulins et voudra connaître les avantages et les plaisirs de sa situation. Au fond, vous comprenez bien que tout ça m'est parfaitement égal. Ce ne sont pas mes affaires. Vous allez me détester pour ma franchise, et vous redirez tout ça à Jacques qui me détestera encore bien plus. Mais, en vérité, je ne veux pas voir une belle fille comme vous, car vous êtes belle, gâtée et perdre sa vie à plaisir. Retenez bien ceci. Vous êtes une épouse peu probable, et vous n'êtes qu'une maîtresse en expectative. Monsieur Jacques est comme le hibou qui avait coupé les pattes aux souris. Il vous élève et vous engraisse. Je n'aime pas ça.
Foudroyé par ce langage cruel, dans lequel il y avait tant de vrai, et où ce qu'il y avait de faux et de perfide disparaissait sous le tranchant de la forme, Caroline fondit en larmes.
« Oh, de grâce, monsieur !»
lui dit-elle.
« Ne parlez plus, taisez-vous !»
Il se tut en effet pendant quelques secondes. Puis, quand il vit que le plus fort de la douleur était passé, il recommença.
« Que voulez-vous? Je suis un libertin, moi. Jacques n'aura pas manqué de vous le dire. Je n'ai ni velours, ni fleurs, ni charme dans les paroles. Ma mère m'a été marâtre. Au collège, j'ai vécu avec d'assez mauvais gredins qui me battaient quand ils étaient les plus forts et qui léchaient mes bottes quand ils étaient les plus faibles. Pour m'attendrir le cœur, on m'a, plus tard, mis dans le commerce. C'était un moyen, mais il n'était pas bon. Je me suis ennuyé, et quoi qu'on ne me laissât guère d'argent, me sachant riche, j'ai fait des sottises. Comme dans la haute société, on n'a pas encore tout à fait pris l'habitude de boire du punch, de fumer des cigares et de dire des ordures, j'ai fréquenté des cabotins qui, en province, représentent tous les beaux-arts, et j'ai soupiré pour des cabotines. Les uns m'ont exploité et ennuyé, les autres m'ont grugé et fatigué. Tous se sont moqués de moi. Je vous avoue que cela ne m'a pas prédisposé à une poésie folle, comme on dit. Mais en cela, comme dans le reste, j'ai abusé. Je me suis détruit l'estomac, ce qui fait que je suis très sobre. Il me reste donc beaucoup de dettes, 16 heures à dépenser par jour, l'horreur du travail, une certaine estime pour l'eau-de-vie, et le sentiment que ce que je fais et ce que je dis est plat, vilain, ignoble, indigne de moi et des autres.
Vous vous calomniez, monsieur Arthur. Vous êtes bon, généreux. Je vous ai vu pleurer au théâtre. Je vous ai vu faire l'aumône. Je vous ai vu indigné contre l'injustice.
Oui, c'est possible. Je ne dis pas non. J'ai des jours où je suis moins méchant, moins aigri, ou plutôt,
ajouta-t-il en riant,
moins gris. C'est quand je me suis levé le matin avec cette idée aussi stupide que fixe que je pourrais refaire ma vie, avec un bon et solide établissement bourgeois, m'entourer d'honnêtes gens, regarder en face des visages qui ne seraient ni grimés ni fardés, laisser là cette ironie qui me pèse et me fatigue autant qu'elle irrite les autres, et me payer enfin les sentiments naturels dont ma jeunesse a été privée et dont je me prive moi-même en ce moment.
Mais ne m'avez-vous pas dit que vous aimiez une personne ?
Oui, et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans mon affaire. D'abord parce que la personne en question est une femme mariée, et puis ensuite parce qu'elle demeure à Lyon et que nous sommes obligés de remplacer les entrevues par 8 pages d'une prose hebdomadaire. Cet amour est donc à la fois une faute et un ennui de plus dans ma vie. Non, ce qu'il m'aurait fallu pour me tirer de ce bourbier, autant que dans mon désordre d'idées et de vie je peux savoir ce qu'il me faudrait, ça aurait été, ou ce serait quelqu'un de jeune, d'intelligent, d'honnête et surtout d'indulgent. Quelqu'un qui serait assez fort pour museler mes vices, assez bon pour avoir pitié et qui avec mes débris recréerait un homme. Une sœur de charité qui n'aurait ni peur ni dégoût d'un être qui a roulé avec toutes les courtisanes de Paris. Ah, ça ne serait pas une petite cure, et la femme qui accomplirait en moi cette transformation pourrait se vanter d'avoir fait un fameux miracle. Mais qui diable souciera d'une pareille tâche ? On me laissera retourner à mon vomissement, et j'y crèverai comme un chien que je suis. »
Il regarda Caroline. Elle était pensive. Il jugea que pour ce soir-là, il en avait dit assez.
« Allons, »
fit-il en regardant sa montre.
« Il est 11 heures, et nos amis n'ont pas l'air de se presser de rentrer. Comme vous n'êtes pas ma fiancée, je ne veux pas rester trop tard avec vous. Ça serait parfaitement innocent, mais ça aurait l'air décolleté. »
Caroline se leva, balbutia quelques paroles confuses et, marchant comme une personne qui rêve, le reconduisit la bougie à la main. À la porte du corridor, il lui prit la main gauche et lui dit d'un ton paterne.
« Oubliez, je vous prie, toutes les sottises que je viens de débiter. Il n'y a pas, dans tout cela, un grain de bon sens. Jacques est un honnête garçon qui tiendra sa promesse, je n'en doute pas. Je n'ai voulu vous faire peur que pour que vous le talonniez un peu, afin d'abréger une situation qui devient vraiment intolérable. Ah ah, vous me trouvez bien prude. »
fit-il en rencontrant le regard surpris qu'elle attachait sur lui.
« Il vous semble, n'est-ce pas, qu'un libertin comme moi n'a guère le droit de chapitrer une honnête fille comme vous, une créature séraphique comme Monsieur Jacques. Mais ce dont vous ne vous doutez pas, ma chère enfant, c'est que ma chasteté me vient de mon libertinage. C'est que nous sommes friands de pudeur comme le gourmet l'est d'une viande simplement apprêtée. C'est qu'on nous a servi le plaisir sous tant de formes ignobles ou hypocrites que nous en avons la nausée. Je suis bien délabré, bien entamé au moral et au physique, et cependant, si j'avais une sœur, je voudrais qu'elle vécût enveloppée jusqu'à son mariage dans sa robe de première communion, parce qu'alors je serais sûr qu'il n'y aurait pas une tache sur sa robe de noces. Nous avons le flair de ces choses-là, nous autres, tandis que les honnêtes gens qui vivent dans les mansardes, au milieu des chats, des chiens, des puces, fenêtres et portes fermées, ne devinent rien, ne sentent rien avec leur nez vertueux. »
Et sur cette boutade, il descendit rapidement l'escalier. Les jours qui suivirent cet entretien furent cruels pour Caroline. Elle ne comprenait plus rien de ce qui se passait en elle. Il y avait des jours où elle méprisait Jacques et où elle se surprenait à plaindre Arthur, à partager ses souffrances, à se dire que ce serait une noble tâche que de le régénérer. Puis elle écartait cette pensée avec horreur. Elle rougissait d'avoir été infidèle, même en pensée, à son amour, et elle accablait de ses caresses Jacques, plus inquiet que touché, et qui se demandait anxieusement d'où pouvait venir cette mobilité d'humeur. Ce désordre moral ses agitations intérieures réagissaient sur sa santé. Souvent, elle se plaignait de n'avoir pas dormi. Elle mangeait à peine. Elle avait un malaise général, des lassitudes, des frissons irréguliers, une grande sensibilité au froid. Elle fut 2 jours sans sortir, accusant une effroyable courbature, des maux de tête extrêmement violents. Enfin, un soir qu'elle était allée travailler dans un magasin qui l'employait ordinairement à domicile, Jacques, en venant la chercher, la trouva assise à moitié évanouie sur un banc du boulevard. Ses dents claquaient. Elle se plaignait de douleurs terribles dans la poitrine et dans la tête. Elle avait mal au cœur et ses jambes ne pouvaient plus la porter. Il eut toutes les peines du monde à la ramener rue de Buffault et elle se mit au lit immédiatement. Pour lui, il courut trouver Foulogne, qui était au café du Coq Gaulois en train de jouer à l'écarté plusieurs consommations successivement accumulées sur sa tête.
« Qu'est-ce que tu veux ?»
demanda-t-il en voyant Jacques.
« À vous de donner !»
« Viens tout de suite, j'ai à te parler. »«
À l'instant. J'en demande, vous refusez. Très bien, je joue à tout. »
« Mais je ne puis attendre, Émile. »
« Rien qu'une seconde. Vous jouez. Je marque le roi. Ah, sacre bleu, vous avez la dame. »«
Tu ne veux pas venir ?»«
Je n'ai plus qu'un point, tu vas voir. J'en demande. Vous refusez encore, c'est parfait. À tout, à tout, à tout. Je fais la vole. Un point de plus qu'il ne me faut. Vous endossez la consommation, mon cher. »
« Est-ce que vous ne me donnez pas ma revanche ?»
demanda le joueur, épouvanté, de se trouver à la tête de 12 demi-tasses et 15 canettes.
« Ah, par exemple, non !»
s'écria Jacques.
« Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a donc ?»
demanda Émile, indécis.
« Caroline est malade, très malade. Viens avec moi chercher un médecin. »«
Animal, va. Il fallait me le dire tout de suite. Que le diable emporte les cartes. »
Ils sortirent en courant. On leur indiqua un médecin rue Lamartine. Ils eurent la chance de le rencontrer chez lui et le ramenèrent avec eux. Il considéra longtemps et attentivement la malade et lui dit doucement.
« Ce n'est rien, mademoiselle. Avec un peu de repos et quelques tasses de tilleul, vous en serez quitte dans 3 ou 4 jours. »
Mais aux 2 jeunes gens qui le reconduisirent jusqu'à la porte,
« Messieurs, prenez vos précautions. Ceci est très grave. Mademoiselle est... »«
Ma sœur, »
dit Émile.
« Eh bien, monsieur, je reviendrai demain matin, à 7 heures, voir comment elle aura passé la nuit. Veillez auprès d'elle. Je crains qu'elle n'ait une fièvre typhoïde. »